vous écoutez France Culture, vous avez bien raison. C'est l'heure de la méthode scientifique et premier vendredi de la saison, le retour tant attendu de la table ronde d'actualité de la recherche et des sciences. Qu'est-il arrivé aux chimpanzés et aux babouins en Ouganda ? Un certain nombre d'entre eux sont touchés par des déformations faciales et des perturbations de leurs fonctions reproductives, conséquence de l'effet de pesticides et de perturbateurs endocriniens. Deuxième sujet du jour, un monde sans parking, sans feu rouge et sans embouteillage. C'est ce que promettent des chercheurs avec l'avènement de la voiture sans pilote. Et enfin, un télescope unique en son genre retrouvé dans l'inventaire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle. Chimpanzés, voitures autonomes et télescopes pyréliométriques. Pyréliométriques, j'avais dit que je me tromperais pas, c'est raté. C'est quelques-uns des sujets que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pyréliométriques, c'est de votre faute, Guillaume Duret. Bonjour, bienvenue, c'est la rentrée pour la fine fleur de la presse et du web scientifique. Ils sont de retour, le teint frais, l'œil vif et le neurone alerte. Cécile Lestienne, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Directrice de la rédaction de Pour la Science, Olivier Lascar, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir et donc l'homme qui m'a tendu le piège du jour, c'est Guillaume Duret, bonjour.
Bonjour.
De la chaîne YouTube Projet Lutécium, fin prêt pour une nouvelle saison d'analyse pointue et intraitable des moindres recoins de l'actualité des sciences et de la recherche. Mais avant de s'y lancer à corps perdu, nous avons l'immense plaisir d'accueillir celle qui sera la voix, le porte-voix, que dis-je, le phare éclairant des lumières de la connaissance, l'actualité scientifique hebdomadaire la plus brûlante. Bonjour Zoé Svez.
Bonjour Nicolas, vous m'accablez, mais je suis
bienvenue,
ravie.
Mais non, bienvenue, soyez la bienvenue dans l'équipe de la méthode
scientifique.
C'est vous désormais qui nous délivrerez chaque semaine votre propre mouture du journal des sciences, que voilà.
Le journal des sciences.
Et pour commencer, le premier sujet du jour, il y a quelques minutes à peine à Hambourg a été inauguré le laser européen XFEL. C'est le laser électron libre et à rayon X le plus puissant du monde. 800 personnes assistaient à cette cérémonie très attendue puisque le projet lancé il y a plus de 8 ans est porté par 11 pays européens dont la France, Zoé.
Oui, il doit permettre des avancées notables dans la recherche de l'infiniment petit. C'est un projet monstre, ce laser XFEL européen. Il a coûté peu ou prou 1,5 milliard d'euros aux 11 pays qui l'ont financé. En tête des bailleurs, on trouve évidemment l'Allemagne, suivie de près, c'est notable, par la Russie, avec 38% des fonds. Andrei Fursenko, le plus proche conseiller scientifique de président Poutine, fait partie des invités aujourd'hui à Hambourg d'ailleurs. Et l'enjeu est de taille, puisque ce laser est aujourd'hui la plus grande et la plus puissante source de rayons X fabriquée par l'homme. C'est en tout cas ce que nous disent ses concepteurs. Il doit tout simplement révolutionner l'étude du nanomonde. Alors les lasers à électrons libres sont apparus en 1977. Ils s'appuient sur un faisceau d'électrons à très haute énergie, et celui de Hambourg, il fait partie de la quatrième génération de XFEL qui implique, et c'est important, un accélérateur linéaire et non un accélérateur en anneaux, comme les synchrotrons, c'était les lasers de troisième génération. Et celui-là, celui d'Hambourg, s'étend sur 3,5 km. Il est constitué par plusieurs tunnels, l'un d'entre eux s'enfonce jusqu'à 38 mètres dans le sol, et c'est justement la taille de cette infrastructure qui lui confère ses qualités exceptionnelles, nous explique Anders Madsen, c'est le chef de l'équipe scientifique du XFEL.
So the principle of this machine
Le principe du laser à électrons libres est simple. Vous prenez des électrons et vous les accélérez jusqu'à ce qu'ils bougent presque aussi vite que la vitesse de la lumière. Cette phase d'accélération a lieu sur 2 km et l'électron finit par monter à de très hauts niveaux d'énergie. Juste après cela, on envoie ces électrons dans un appareil qu'on appelle onduleur. Et cet onduleur est équipé d'aimants qui obligent l'électron à slalomer de haut en bas, de haut en bas, et ce sur plus de 10 km. L'électron se met donc à onduler et en changeant de trajectoire sans cesse, l'électron finit par imiter la lumière. Et comme il monte à de très hauts niveaux d'énergie, la lumière qu'il produit n'est pas visible. Il produit des rayons X. Et c'est ça la nouveauté. Le laser à électrons libres est déjà très utilisé pour générer des rayons ultraviolets, des rayons infrarouges. Mais dès qu'on veut produire des rayons X, il faut des machines très grandes et très complexes. La nôtre est la plus longue au monde aujourd'hui. Et à la fin du parcours, on obtient donc des rayons X très courts et très intenses, avec la plus grande brillance moyenne au monde, et ce, grâce à la longueur exceptionnelle de notre onduleur.
Et donc la raison, Zoé, pour laquelle ce laser X-Fell représente un véritable bond en avant par rapport aux générations précédentes, c'est parce qu'il pourra notamment générer jusqu'à 27 000 flashs de rayons X par seconde.
Oui, et ce laser va fonctionner donc à la fois comme un super microscope et comme une super caméra, puisque les deux lasers X-Fell les plus récents sont ceux de l'université de Stanford aux États-Unis qui a été construit en 2009, et celui de Sakla, au Japon, qui l'a suivi de près. Et ils émettent respectivement 120 et 60 flashs par seconde, alors que le laser de Hambourg, lui, en émet, on l'a dit, 27 000 par seconde, c'est 200 fois plus, ce qui va permettre d'obtenir des images tout à fait nettes de phénomènes extrêmement rapides à l'échelle nanométrique, atomique, moléculaire, dont nous avons aujourd'hui des images plutôt floues, puisqu'il va véritablement fixer la dynamique d'un électron, d'une molécule, à l'écran, à l'échelle temporelle même où cet électron ou cette molécule bouge, ce qui peut véritablement bouleverser la recherche, nous explique toujours Anders Madsen, le directeur de recherche au X-Fell, dans beaucoup de disciplines.
C'est la spécificité de notre machine. On combine une très haute résolution de rayons X dans l'espace avec une très haute résolution temporelle. On va donc pouvoir observer de la chimie en temps réel. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment lors d'une réaction chimique? Comment se forment les liens entre molécules? Comment ils se brisent, etc. On va pouvoir aussi observer la manière dont les électrons bougent sur certains matériaux et mieux comprendre un phénomène comme la supraconductivité, par exemple. Et en biologie, on va pouvoir observer la forme et le comportement de certaines molécules, comme les virus. Si on comprend comment un virus s'ouvre pour attaquer des cellules, on aura de meilleures chances de pouvoir le bloquer. Voir, c'est souvent comprendre. Et jusqu'ici, nous étions souvent obligés de cristalliser des molécules pour les observer. Mais certaines d'entre elles, qui sont très importantes, ont des formes ou des consistances si complexes qu'elles sont impossibles à cristalliser et donc à observer. Grâce à son intensité, X-Fell pourra permettre pour la première fois de regarder individuellement et de leur intégrité des molécules, comme les protéines membranaires par exemple, ce qui peut conduire à de vraies avancées en matière de design ou tout simplement de la compréhension du corps humain.
Alors les attentes sont très grandes, vous l'aurez compris, ce qui explique que les chercheurs se battent déjà pour obtenir du temps de faisceau. Les premières expériences commencent dès la fin du mois, mais il s'agit pour le moment de friendly experiments, comme me disait Anders Madsen, puisque les chercheurs qui vont étrenner ce laser doivent s'attendre à quelques dysfonctionnements, puisque vu la taille, la complexité de la machine, il y a encore beaucoup de réglages nécessaires.
Une petite période de rodage. En bref, Zoé, on a découvert un titanosaure en Tanzanie.
Découverte importante, puisqu'on a retrouvé peu de titanosaures en Afrique. Celui-ci a été identifié grâce à des os qui ont été retrouvés à partir de 2002 en Tanzanie. Les paléontologues qui travaillent sur son squelette ont conclu qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce baptisée Shingopana songwensis, Shingopana qui veut dire long cou, beaucoup plus proche finalement des squelettes retrouvés en Amérique du Nord que de se retrouver en Afrique du Nord, ce qui suppose que les conditions climatiques de l'Afrique du Sud étaient sans doute plus proches de celles de l'Amérique du Nord que de celles de l'Afrique du Nord, il y a entre 60 et 100 millions d'années.
Et pour le deuxième sujet du jour, on va partir au Brésil où des millions de moustiques génétiquement modifiés ont commencé à être lâchés par l'Institut Fiocruz avec pour but d'endiguer les épidémies de dengue, de Zika et de chikungunya.
Trois virus et un seul responsable, le moustique Aedes aegypti, un cousin du moustique tigre, qui prolifère dans les centres urbains très précaires, notamment dans les eaux stagnantes des favelas de Rio. Trois virus qui ont fait des ravages au Brésil ces trois dernières années. Le pays a connu 91 000 cas de Zika rien que pour l'année 2014-2015, l'année où le virus est apparu, avec des conséquences très lourdes, on les connaît, la naissance de nourrissons microcéphales chez les mères infectées pendant la grossesse. La dengue aussi, après avoir été quasiment éradiquée dans les années 50, a fait un retour inquiétant dans le pays, notamment depuis la Coupe du Monde de 2014. Quand l'afflux de touristes venus du monde entier a permis le retour d'une des quatre souches du virus de la dengue contre laquelle les Brésiliens n'étaient plus immunisés. Résultat, les cas de dengue ont augmenté de 550% en 2015. Les deux virus ont un peu régressé, mais il reste des menaces majeures. D'où ce programme baptisé baptisé « Éliminer la dingue ». Il a été développé par l'université de Monash en Australie. Une équipe de chercheurs internationaux y produit depuis 2009 des moustiques Aedes aegypti porteurs d'une bactérie, la Wolbachia, qui bloque leur capacité à transmettre les virus, comme l'explique le professeur Luciano Moreira. Il a travaillé plusieurs années avec l'équipe australienne et aujourd'hui c'est lui qui est en charge de l'application de ce programme au Brésil.
La Wolbachia est une bactérie très commune. On la retrouve chez près de 60% des insectes dans le monde, y compris chez les moustiques. Mais nous ne l'avions jamais trouvée chez Aedes aegypti. Lorsque nous avons commencé nos recherches en Australie en 2005, le but était donc de prendre la bactérie d'une drosophile, cette espèce de mouche qu'on appelle la mouche des fruits, de la purifier et de tenter de l'introduire dans les embryons d'Aedes aegypti. Ça a pris plus de 4 ans, mais nous avons finalement réussi. Et nous nous sommes donc retrouvés avec des Aedes aegypti porteurs de la Wolbachia. Et notre grande découverte, ça a été de comprendre que quand Aedes aegypti est porteur de la Wolbachia, celle-ci réduit beaucoup sa capacité à transmettre des virus comme la dengue, le Zika ou le chikungunya. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Wolbachia est une bactérie intracellulaire qui se développe à l'intérieur des cellules. Donc, la mère transmet automatiquement la bactérie à ses œufs. Toute sa descendance sera porteuse de la bactérie. Mieux encore, la bactérie a vocation à s'étendre très vite à toute la population. Puisque si un mâle est infecté et qu'il rencontre une femelle non infectée, il la rend stérile. Et une femelle porteuse de la bactérie transmettra cette bactérie à tous ses œufs, même si le mâle qui l'a fécondé n'est pas infecté.
Et puis en France, le moustique tigre progresse de façon assez préoccupante, et notamment dans le Lot-et-Garonne.
Oui, il est arrivé d'Asie par le sud-est de la France et il se développe toujours plus vers le nord depuis 2004. Le Lot-et-Garonne est très touché depuis 2012. Il se trouve désormais classé en niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus de chikungunya, dengue et Zika. Le département tente de mesurer la progression du moustique. Il a mis en place plusieurs pièges pondoirs et surtout une plateforme en ligne flambant neuve où chacun, vous êtes tous invités à le faire, peut signaler la présence d'un moustique tigre chez lui, photo à l'appui.
Et puis en Amazonie, près de 400 nouvelles espèces d'animaux et de plantes ont été découvertes.
Par le WWF, 216 plantes, 93 poissons, 32 amphibiens. WWF explique qu'elle en découvre une tous les deux jours dans la forêt et continue de les homologuer pour les protéger contre la dégradation de leur habitat par l'homme. L'homme risque de détruire des espèces avant même qu'on ait eu le temps de les découvrir, prévient WWF, qui alarme aussi sur la diminution de ses moyens puisque l'organisation environnementale a vu ses fonds réduire drastiquement et prévient que la qualité de ses prochains rapports s'en ressentira clairement.
Voilà, puis nous consacrerons ici même une émission complète à l'écosystème complexe et fragile de la forêt amazonienne d'ici une petite semaine, une dizaine de jours. Et pour conclure, comme chaque semaine, on ne perd pas les bonnes traditions par notre rubrique de science improbable, avec un tome inédit de la série de livres de George Martin, Game of Thrones, rédigé cette fois non plus par George Martin, mais par un ordinateur.
Vous l'entendez, ce générique, et si comme moi, vous attendez le dernier tome de la saga de J.R. Martin et la dernière saison du show qui en découle, vous allez être curieux de cette info puisque le développeur américain Zach Thout a développé une intelligence artificielle et l'a nourri avec les premiers tomes de la saga. Il l'a entraîné à imaginer la suite en utilisant un système de neurones récurrents qui fonctionne un peu par boucle et qui permet à cette intelligence artificielle de prendre en compte le contexte, d'avoir une bonne mémoire à court terme de tout ce qu'elle a lu, entre guillemets, mais pas à long terme. Alors résultat, les 5 premiers chapitres qui ont été publiés sur internet cette semaine donnent des phrases qui sont très correctes grammaticalement, ce qui est déjà plutôt bien, mais parfois beaucoup moins bonnes sur le sens. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est la résolution de l'intrigue. Certains éléments paraissent cohérents. Alors comme on peut s'y attendre, Jaime assassine sa sœur, prévoit ce robot, la très vilaine Cersei à la fin. Il y a aussi Varys qui empoisonne Daenerys, et oui, la reine des dragons, laissant Jon Snow seul face au trône de fer, mais on a quand même beaucoup de bugs avec au moins 2 personnages morts depuis Belle Lurette qui font leur retour dans cette finale. Bref, en tout cas sur la fiction, on reste encore la meilleure.
Vous venez de spoiler déjà, moi qui n'ai pas vu la dernière saison et encore moins le dernier épisode, j'ai réussi à échapper, à passer entre les gouttes, à ne pas lire une seule ligne de cette dernière saison, et voilà, vous venez de me massacrer.
Tout ça, c'est du fake, c'est un robot.
Bon, très bien, j'espère bien. Même. Vous avez vu le dernier épisode, Olivier ?
Alors pas du tout, je suis complètement largué en Game of Thrones, à mon grand malheur, hein, et j'ai pas eu le temps.
Il va falloir rattraper tout ça. Ouais. Un mot, une réaction à ce qu'on vient d'entendre dans ce journal des sciences, peut-être un mot, parce qu'on en a déjà parlé un peu ici, Cécile, sur ces expérimentations qui laissent quand même sceptiques un certain nombre de chercheurs sur les modifications génétiques des moustiques et des populations de moustiques en Amérique du Sud.
Oui, il y a eu d'autres expériences du même type qui paraissent peut-être moins science-fictionnesque. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours intéressant. On a besoin de lutter contre ces moustiques parce que ces maladies sont de vrais fléaux, ça c'est sûr, et que c'est le véhicule de la transmission. En même temps, voilà, implanter comme ça des bactéries dans des moustiques sans savoir exactement ce que ça va devenir, ça peut toujours faire peur. Moi, j'avais trouvé plus intéressant de ces essais de rendre les moustiques mâles stériles, voilà, et qui permettaient effectivement qu'il y ait une production, enfin, qu'il y ait beaucoup, beaucoup moins de nouveaux moustiques dans les nouvelles génération.
C'est ce que fait bizarrement Google. Hein. Il y a une société qui est une émanation de Google qui, en Californie, a injecté dans la nature des millions de moustiques mâles stériles pour permettre une moindre propagation de ces insectes.
Avec le...
C'est surprenant de voir Google là-dedans, quand même.
On voit Google partout, Olivier.
Avec le risque, à terme, peut-être, de voir les populations de moustiques s'effondrer. Alors, on va vous mettre le lien, d'ailleurs, sur le fil Twitter consacré à une émission complète, justement, au rôle des moustiques qu'on pense être strictement nuisibles. Or, pas du tout. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont inclus, évidemment, dans une chaîne alimentaire. Zoé ?
Luciana Moreira, qui est en charge de ce programme, m'a expliqué qu'ils avaient testé une autre souche de Wolbachia qui, elle, avait une incidence sur la production des œufs, qu'ils n'avaient pas préféré utiliser celle-là, qu'ils avaient préféré utiliser celles qui laissent finalement les moustiques vivre leur vie, mais qui bloquent simplement leur capacité à transmettre les virus.
Donc voilà, toujours un peu ce doute de savoir si on va avoir des répercussions à moyen ou à long terme sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, Olivier.
Et il est rare de voir des réactions fortes des populations locales hein, sur ces initiatives comme celle-là. Il y a quelques années, je crois, en Catalogne, il y avait une entreprise qui était partie sur un programme comme celui-là pas de modification génétique, mais enfin d'altération des moustiques pour éradiquer, je crois que c'était une maladie de l'olivier. Et là, des associations s'étaient levées contre cette initiative en disant, mais qu'est-ce qui nous dit que ces insectes mutants, le mot est peut-être excessif, enfin, ces insectes non naturels ne vont pas être la cause de problèmes plus grands encore.
Mais Cécile ?
Oui, c'est sûr, c'est toujours des situations très très complexes et où on met le curseur des principes de précaution dans ces cas-là face à un fléau. Vous vous dites, vous attendez aussi à ce que la recherche propose des choses, que l'industrie propose des choses, et en même temps, il ne faut pas non plus qu'on tombe effectivement dans quelque chose qui pourrait se révéler plus dangereux que le fléau de départ.
Et il est paradoxal de nous voir batailler contre des insectes venus d'Asie, par exemple, avec les histoires de
moustiques tigres en France. Oui.
Vous parliez de Lot-et-Garonne. Dans le Lot, par exemple, là, tous les buis sont éliminés les uns après les autres par la pyrale du buis, une sorte de chenille gluante et malodorante qui vient aussi d'Asie. Donc quand des insectes naturels, finalement, mais qui ne sont pas dans leur écosystème normal, arrivent comme ça et chamboulent tout, on fait tout pour s'en débarrasser, qu'on vienne introduire nous-mêmes des petits aliens comme ça, c'est un petit peu effrayant.
Un mot, peut-être, Guillaume aussi, alors sur ces grands équipements, il y a eu le LHC, le X-FEL aujourd'hui, enfin,
C'est sûr qu'en tant que physicien, moi, c'est ça qui a retenu mon attention.
Bien sûr.
Moi, je trouve ça impressionnant, ces lasers. Il n'y a pas 36 domaines de la physique où on peut sonder expérimentalement de telles, des échelles d'espace et des échelles de temps qui sont ridiculement petites. La taille de l'atome, la femtoseconde, c'est 10 puissance moins 15 secondes, ou, on est en train de construire maintenant, on est en train de projeter les lasers attosecondes, 10 puissance moins 18, et ça c'est incroyable. C'est avec ce genre d'outils qu'on fait les films où on voit la lumière se propager à l'intérieur d'une bouteille de coca ou ce genre de choses. Enfin, on arrive à faire de la stroboscopie, reconstituer, faire des films, et on accède aux temps caractéristiques de formation des réactions chimiques. Et donc on fait un film d'une molécule en train de se fabriquer. Enfin, c'est dingue quoi.
Et puis surtout, on voit ce que le LHC a permis en termes d'avancée, d'observation, le boson de Higgs. Enfin, c'est des vrais progrès qui permettent d'arriver à des constatations expérimentales, de théories, et donc de valider des modèles.
Et puis, c'est de la recherche fondamentale pour l'instant, mais c'est comme toujours, on ne sait pas ce qui va en sortir. Et je crois qu'il y a peut-être un prix Nobel sur trois qui est indirectement lié au laser depuis la création du laser. Donc, ça va continuer.
Donc, dans les années à venir, un mot, Cécile, Olivier, sur ce X-FEL?
Pour voir l'infiniment petit, on voit encore une fois qu'on a besoin de l'infiniment grand, hein, parce que ce sont des dispositifs qui ont des dimensions invraisemblables. Et c'est une des difficultés majeures, parce qu'il y a d'autres pistes qui sont explorées actuellement pour pour voir l'infiniment petit dans d'autres disciplines, dans le domaine de la santé, de la médecine par exemple. Récemment, je discutais avec un scientifique de l'INSERM, Michael Tanter, qui développe depuis des années des dispositifs à micro-ondes qui permettent de visualiser en temps réel des phénomènes qui ont lieu à l'intérieur de l'organisme humain et de zoomer sur ces organismes. Donc là aussi, on est dans une forme d'exploration de l'infiniment petit. Mais il a besoin de dispositifs qui sont... on n'est pas dans la taille du LHC ou de...
Il fait de la sous-résolution avec des ondes ultrasonores, lui. Donc il va plus que de la limite de diffraction. Il a des détails de l'ordre du millimètre. Et c'est aussi un chercheur de l'ESPCI. Donc...
Oui, c'est vrai. dont on va parler dans quelques minutes.
Ouais, l'ESPCI aussi, est partout.
Aussi un mot, parce que Zoé le disait bien dans le journal des sciences. On fait un bon... qualitatif immense avec le XFL. Hein. On passe de 100, 120 d'une centaine de flashs par seconde à 27 000. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir accès à des choses qui, jusqu'à présent, étaient totalement ou très peu accessibles avec une définition vraiment, vraiment mauvaise. Quoi.
Ouais, tout à fait. C'est ben, toujours la résolution la meilleure qu'on va avoir. Quoi.
Allons-y. Allons-y, passons à la suite.
La méthode scientifique. Nicolas Martin.
Et oui, puisqu'il est déjà 16h20, on discute, mais le temps passe, n'est-ce pas ? Premier sujet cette semaine, un sujet qui, une fois n'est pas coutume, va nous réconcilier un peu plus avec l'ensemble de l'humanité et des conséquences de son action sur la faune et la flore sauvage. On part pour l'Ouganda, Olivier, où la primatologue Sabrina Krief a observé récemment un certain nombre de déformations faciales dans des populations de chimpanzés et de babouins.
Oui, alors c'est dans un parc national de l'Ouganda. Ce parc national s'appelle Kibale. C'est dans une zone en particulier de Kibale. Cette zone, c'est Sebitoli. Et elle a une particularité, cette zone de ce parc national, c'est qu'elle est vraiment à l'interface de constructions humaines, d'infrastructures humaines. En lisière de Sebitoli, il y a cultures de thé, des cultures d'eucalyptus. Il y a aussi beaucoup d'habitations. C'est une zone qui est très très peuplée par les Ougandais et chacun a son petit jardin avec sa culture vivrière où il fait pousser son maïs, enfin de quoi se nourrir. Mmh. Et tout ce petit monde utilise pour ses cultures nombre de pesticides et de produits chimiques qui ne sont pas très... c'est utilisé hors dose, etc. Et ce dont s'est rendu compte Sabrina Krief, donc qui est vétérinaire au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui travaille depuis 20 ans maintenant sur les chimpanzés, qui fait un travail formidable avec son mari d'ailleurs, qui est photographe sur les chimpanzés, ils ont observé qu'une forte proportion des chimpanzés de Sebitoli portaient des déformations faciales.
Jusqu'à un quart de la population, hein, c'est ce qui est énorme. En termes épidémiologiques, c'est vraiment une très très forte proportion.
C'est une très forte proportion et... pour des gens qui sont tellement au contact des chimpanzés, on peut pas passer à côté puisque ce sont des narines absentes, des lèvres déformées. Il y a même un cas de bec de lièvre chez un femelle chimpanzé qu'ils ont surnommé Chiara puisque ils s'attachent à des individus. Hein. Ils vont pas au contact. On peut pas aller au contact des chimpanzés. Ils sont obligés de les observer de loin. Les chimpanzés ont besoin de 10 à 15 ans de présence de l'homme pour instaurer une forme d'habituation qui va leur permettre de supporter la présence d'un observateur. Donc on ne va jamais au contact, on ne va pas les toucher les chimpanzés, mais ils acceptent qu'on les regarde évoluer de loin. Donc les caractéristiques physiques des uns et des autres permettent de s'attacher, d'identifier les individus. Et là, évidemment, ces déformations faciales, encore plus qu'autre chose, permettent de repérer les uns et les autres. Alors effectivement, il y a 16 individus sur un groupe de 66 qui étudie Sabrina Krief depuis 2008 qui portent ces déformations.
Et on parle d'autres déformations sur les mains, par exemple. On voit des mains à trois doigts, avec des doigts... des pouces manquants, enfin.
Oui, alors il faut par rapport aux membres, il y a beaucoup de déformations qui peuvent être aussi consécutives à des blessures liées aux pièges. Les chimpanzés peuvent être victimes de pièges installés par les villageois, des sortes de courroies qui vont ligaturer leurs membres. Et même si les scientifiques constatent la présence de ces blessures, de ces entraves, ils ne peuvent pas forcément intervenir sur l'animal pour couper le câble, parce que d'abord, il faudrait aller au contact de l'animal. Les chimpanzés, ils les observent quand ils sont dans les arbres, donc il faudrait tirer dessus avec une seringue anesthésiante, mais ça risque de le faire tomber, de mal le faire tomber et donc de provoquer plus de dommages que d'avantages. Donc il est assez rare qu'on puisse soigner ce type de problème. Donc tout ça pour dire que les stigmates sur les mains, les pieds, peuvent être différemment interprétés. Et ce qui est particulier avec les déformations faciales, c'est qu'en 25 ans de travail à Sébitoli, ils n'avaient vraiment jamais vu ça. Et sur l'ensemble de l'Afrique, Sabrina Krief me disait qu'ils n'ont qu'un seul autre exemple de chimpanzé ayant une déformation faciale semblable à ceux de Sébitoli. Donc il s'est passé vraiment quelque chose, il se passe vraiment quelque chose de particulier à Sébitoli.
Il y a ces déformations faciales et justement à force d'observation, ils ont pu se rendre compte qu'il y avait aussi d'importantes perturbations des cycles reproductifs.
Oui, absolument. Certaines femelles semblent ne plus pouvoir porter de bébés. La qualité de sperme, si je ne m'abuse, des chimpanzés aussi est dégradée. Donc il y a un tableau comme ça, un tableau clinique qui est très défavorable pour ces animaux qui sont à la fois l'emblème d'un écosystème et qui sont tellement porteurs d'un imaginaire pour nous tous, mais qui sont aussi extrêmement proches de nous. Hein. 98% du patrimoine génétique de l'humain est commun à celui du chimpanzé.
Et ils se sont rendus compte d'ailleurs, en poursuivant leurs études, que des populations de babouins étaient aussi atteintes. Hein.
Oui, ils ont observé ça effectivement également en Ouganda, dans ce parc. Il y a à peu près 1000 chimpanzés à Kibale, mais il y a aussi d'autres primates et il y a des babouins. Et chez les babouins, ils ont observé aussi ces déformations faciales avec les caméras trappes qu'on installe dans les champs et qui fonctionnent la nuit, enfin à tout moment, et qui peuvent comme ça voler certaines paparazzi des singes. Quoi.
Alors que se passe-t-il, Olivier? Pourquoi c'est... Alors on a eu quelques indices dans la description que vous avez faite de l'environnement et de l'écosystème de ces grands singes, mais est-ce qu'il y a pu avoir des preuves, des analyses qui donnent des explications à ces déformations?
Alors oui, donc bon, l'équipe de Sabrina Krief a eu la puce à l'oreille de par cette présence humaine très proche. Et encore une fois, il y a même une route goudronnée qui traverse Sébitoli. Et cette présence humaine met en avant la très grande plasticité du comportement des chimpanzés. Pour traverser la route, ils ont mis au point un dispositif. Il y a un mâle à un bout de la queue, un autre mâle à l'autre bout de la queue. Ils marchent. Ils n'ont pas besoin de passage clouté. C'est très, très clean.
Très organisé.
Très organisé. Et de la même façon, la présence de l'homme et des champs cultivé par l'homme, a induit un comportement particulier. Hein, on a vu que les chimpanzés, la nuit, alors que normalement la nuit ils dorment, la nuit maintenant ils vont dans les champs de maïs pour prendre du maïs et s'en nourrir. Donc cela a conduit Sabrina Krief et ses partenaires ougandais, hein, puisque il y a sur place des équipes ougandaises qui sont très impliquées dans la sauvegarde des singes, à enquêter. Hein, c'est une enquête de terrain. Ils sont allés poser des questions. Ils sont allés voir dans les boutiques quel type de produits étaient vendus.
Alors, tout en sachant qu'ils n'ont pas accès aux singes directement, comme vous le disiez, parce que ce sont des chimpanzés sauvages et qu'ils n'ont pas accès à eux directement. Donc ensuite, ils récupèrent leurs déjections, etc. Mais
c'est la difficulté parce que pour analyser les déjections, il faut en avoir des quantités importantes. Et effectivement, ils n'ont pas commencé par là. Ils ont commencé par l'enquête de terrain et l'enquête de l'environnement des singes, de quoi ils se nourrissent. Et quand ils allaient dans les boutiques, les drogueries. Enfin, là où on achète les produits chimiques. Par exemple, on leur montrait que les graines de maïs, des plants de maïs qui étaient vendus, étaient enrobées, on voyait qu'elles étaient enrobées d'une petite pellicule rouge. Et quand Sabrina Krief et ses équipes demandaient aux vendeurs « Mais c'est quoi cette petite pellicule ?» Bon, les gens ne savaient pas. Donc ils utilisaient comme ça des produits sans savoir de quoi il s'agissait. Ils se sont rendus compte, après analyse, que la petite pellicule en question, c'était le principe actif du gaucho, je ne sais jamais le prononcer, enfin ce fameux néonicotinoïde.
Qui est nuisible aux abeilles, dont on a beaucoup parlé, voilà, et qu'on considère comme un perturbateur endocrinien.
Et qu'il faut utiliser avec maîtrise, parcimonie. Et là, comme on ne sait pas de quoi il s'agit, ben, c'était saupoudré un peu partout. Donc on a retrouvé, ils ont retrouvé dans les analyses, ils ont pris des échantillons de terre, de maïs, de plants de maïs, de tiges de maïs, d'eau, même les poissons dont se nourrissent les chimpanzés. Et ils les ont envoyés à Lyon, dans l'école vétérinaire de Lyon, pour des analyses. Et effectivement, là, on a trouvé la présence de tous ces pesticides qui sont éminemment toxiques. Il faut dire aussi
et à des niveaux extrêmement élevés, hein, à des niveaux qui dépassent même les seuils maximum. Enfin, on est vraiment à des seuils très 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 importants.
Absolument. Et également des produits qui sont normalement interdits. Par exemple, on a trouvé des traces de DDT, qui est une substance qui est interdite depuis 2001 par la Convention de Stockholm. Ça a été signé par une centaine de pays, mais l'Ouganda ne l'a pas signé pour se garder la possibilité de l'utiliser normalement uniquement à l'intérieur des maisons. Mmh. Donc de toute évidence, ça n'est pas respecté. Et voilà, c'est ce que suspecte maintenant l'équipe des vétérinaires, c'est que ces produits agissent comme des perturbateurs endocriniens qui vont altérer le développement in utero du bébé chimpanzé, le développement de sa face, et faire que, au moment de la naissance, ils arrivent avec ces déformations.
Et des conséquences hormonales qui entraînent par ailleurs une semi-stérilité ou en tout cas des gros problèmes et des gros troubles du cycle reproductif.
Voilà, voilà. C'est évidemment dramatique pour les chimpanzés, mais si ça a ces effets-là sur des animaux qui sont si proches de nous, on peut imaginer que sur les populations locales, qui sont donc très proches de cette fameuse région de Sébitoli, ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Donc ce que font maintenant les équipes comme ça, qui sont organisées par Sabrina Krief, c'est qu'elles font un travail de pédagogie. Elles vont expliquer aux petits droguistes, aux gens qui cultivent leur jardin, que les produits qui sont utilisés ne sont pas sans conséquence, qu'ils provoquent ce type de problème chez ces animaux qui leur sont si familiers, et que donc pour eux aussi, il peut y avoir aussi beaucoup de problèmes.
Mais il y a ces petites cultures vivrières, mais il y a aussi de l'exploitation sur cette zone d'exploitation intensive. Il y a des cultures intensives de thé, d'eucalyptus, notamment, dont on sait que l'eucalyptus, par exemple, est une plante qui demande justement beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides pour pouvoir la produire à l'échelle intensive, en tout cas.
La région de Sébitoli a aussi été énormément exploitée pendant les années 70 pour son bois. Et on y a beaucoup utilisé l'agent orange, qui est tristement connu pour l'usage qu'en faisaient les armées américaines au Vietnam. Et les résidus d'agent orange ont également été trouvés dans les analyses aujourd'hui de ces poissons, de cette terre de Sébitoli.
Ça
réenchante pas le monde.
Ça réenchante pas tout à fait le monde. Et puis moi, ça m'a, quand vous m'avez envoyé ces études, ça m'a fait penser à une autre étude qui date de l'année dernière, donc que nous avions discuté ici, je crois, avec vous, Cécile, sur des tests qui avaient été faits, notamment sur des enfants dans des écoles qui étaient entourés par des champs et par des champs d'exploitation intensive, et où on a trouvé dans leurs analyses sanguines et dans leurs urines des taux extraordinairement élevé de pesticides, et avec des effets de perturbation endocrinienne, on trouvait des troubles de la thyroïde, et notamment dans des écoles rurales, c'est-à-dire vraiment entourées par ces champs et ces exploitations agricoles.
Ça n'était pas avec moi, Nicolas, mais je connais cette histoire.
Il me semblait que c'était avec vous, on en avait parlé autour de cette table, en tout cas l'année dernière.
Mais il semble bien qu'Olivier a raison, ça ne réenchante pas le monde, on va plomber la rentrée là, directement. Il semble que ce problème d'intrants chimiques et de perturbateurs endocriniens soit un problème que de plus en plus crucial. Enfin, on voit bien, les recherches s'accumulent, les résultats s'accumulent. Alors, on peut toujours dire qu'effectivement, on n'a pas encore toutes les preuves, et c'est vrai. Mais quand même, on voit tout le temps, toutes les semaines, tomber des études qui montrent qu'il y a justement encore un communiqué qui est tombé tout à l'heure, qui montre que les perturbateurs endocriniens perturbent justement la reproduction des souris.
Les souris, sur les sites de reproduction.
Donc, ça va, c'est un très gros problème. Qui existe et qui va effectivement perdurer, parce que comme tu disais, Olivier, on retrouve toujours, encore aujourd'hui des résidus d'agent orange qu'on n'utilise plus depuis je ne sais pas combien de temps, et ça va être la même chose avec tous ces perturbateurs endocriniens que l'on trouve partout, hein,
et pas uniquement. Qu'on trouve dans les sols et qui sont recyclés, c'est-à-dire qu'on les trouve dans les sols, ils repassent dans les plantes, enfin, je veux dire, ce sont des molécules qui ont des durées de vie très longues.
Dans les sols, dans les cosmétiques, dans les pare-feux sur vos fauteuils, dans partout. Barbara Demenek signe aussi cette étude, Sabrina Krief.
Avec les effets, oui.
Voilà, c'est une grande spécialiste de ce sujet au musée.
On l'avait reçue ici même, et elle a écrit un livre sur les liens entre le développement formidable. Du cerveau et les perturbateurs endocriniens.
Il faut absolument lire.
On va vous mettre le lien.
Je ne sais pas si cette étude peut avoir un rôle, ça fait longtemps maintenant qu'on parle des perturbateurs endocriniens. Pendant la campagne présidentielle en France, ça avait été...
Il y a des candidats qui l'avaient
proposé,
Benoît Hamon,
hein,
s'était saisi de cette question-là.
Du sujet, bon, peut-être des fois on a besoin d'un symbole pour mobiliser et pour bouger, et la photo de ce singe avec ce bec, de lièvre peut peut-être devenir... un petit peu fédératrice.
Emblématique.
Et emblématique.
Ce qui est très inquiétant, c'est de voir la rapidité, c'est-à-dire sur très peu de générations, alors assez à des niveaux et à des concentrations très élevées qui sont a priori pas celles auxquelles nous sommes soumis dans notre vie quotidienne, et même les gens qui y sont soumis plus que d'autres. Mais enfin, ce qui est très marquant dans cette étude de Sabrina Krief, c'est que ça se passe sur très peu de temps. C'est-à-dire en une vingtaine d'années, on arrive à ces malformations qui sont effectivement très très préoccupantes.
Alors peut-être que la suite justement du travail sur le terrain, parce que ça continue, hein. Effectivement, maintenant, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de récolter suffisamment d'urine, des selles, pour vérifier à l'intérieur du corps du chimpanzé à quelle dose on est. Mais vous avez raison, Nicolas, la rapidité du phénomène est effrayante.
Ouais, puis c'est par similaire. Ailleurs, cette étude, si elle peut mettre un peu en lumière la difficile position des grands singes aujourd'hui, la difficile situation des grands singes aujourd'hui, qui sont quand même très 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 menacés en dehors même de ces perturbateurs endocriniens et même ailleurs, qui sont blessés. Enfin bon, Sabrina Krief,
menacée de disparition dans les 20 ans, les orang-outans, les chimpanzés, les gorilles. Quand même. Ouais.
Eh bien, bonne rentrée à tous. On va écouter un peu de musique.
La méthode scientifique, Nicolas Martin. On Sunday afternoon around the patch, I pick my baby up and his baby too. We drop into my car and go to the zoo to see the chimpanzee. We bought some peanuts and a couple of snacks, plenty jelly beans and cracker jacks. We always bring along some afternoon snacks to feed the chimpanzee. The people giggle at everything he does, but my baby and I stare with fascination. Secretly, I'm wondering if he just might be a distant relation. Although you laugh and say it couldn't be true, remember he might be a cousin to you. And if you don't believe it, go to the zoo and watch the chimpanzee. I dreamed the whole night through. I dreamed that I was all alone at the zoo. I had some peanuts and some jelly beans too, to feed the chimpanzee. I dreamed the cage was empty, vacant and bare, and so I woke right up and caught up one chair. Ate all the peanuts I was planning to share with the chimpanzee. Even by your giggle, I think it's kinda silly. I can tell you right now, in my situation, that I could see that you and you and me all might be related and distantly. When I woke up, I was surprised as could be. There ain't no brother staring curiously. I saw my baby and the chimpanzee, and they were watching me.
Chimpanzee Frenzy, un peu de bonne humeur musicale de Rum Runners après ce constat assez terrible qui redonne ce grand moment d'optimisme, comme le dit notre confrère et ami Tania Louis sur Twitter. Deuxième sujet du jour, on va reprendre un peu du poil de la bête. C'est un sujet à mi-chemin entre l'archéologie, la fouille et la découverte de trésors. Bref, notre Indiana Jones des soupentes de la SPCI, c'est vous, Guillaume Durand. Ça donne un peu cette impression, puisque vous participez donc à l'inventaire du matériel de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle qui va connaître d'importants travaux de rénovation dans les années à venir. Et vous avez donc mis la main sur une sorte de trésor.
Voilà, c'est ça. Juste avant les travaux, on a quand même un peu l'idée de se dire est-ce qu'on n'a pas des choses qui traînent dans les placards, qui vaudraient la peine d'inventorier, de sauver. C'est génial de faire l'inventaire. Ça consiste à ouvrir des placards qui n'ont pas été ouverts depuis 50 ans, trouver des lentilles, trouver des trucs, des radios allemandes de l'époque de la guerre, et voilà. Un jour, on a ouvert un placard qui était plus grand que les autres, et on a vu un instrument qui avait la bonne idée de déclarer qui il était dessus. C'était écrit télescope pyréliométrique de Charles Ferry, Charles Baudouin, constructeur. Et donc, quand on a vu ça, on a fait waouh, parce que C'est une chose de trouver des lentilles ou des beaux instruments d'époque qui sont très élégants et tout ça, mais c'en est une autre de trouver un appareil qui a une histoire, qu'on peut dire que c'est un instrument unique, c'est un prototype. On sait exactement à quoi il a servi, on sait qu'il a gravi le Mont Blanc pour donner la première mesure de la température du soleil qui était précise à 2%. Et voilà, donc on avait ça dans nos placards qui dormaient depuis 111 ans. Et...
Alors décrivez-nous déjà à quoi ça ressemble. Quand vous ouvrez la porte de ce placard, vous tombez sur quoi ?
Un grand tube de 1 mètre à 2 mètres de long et puis peut-être 15 cm de diamètre, quelque chose comme ça. En fait, c'est comme un télescope de type Newton. Voilà, un grand tube avec un miroir au fond et puis un petit miroir secondaire qui renvoie la lumière.
On va vous mettre des photos du télescope de type Newton et du télescope pyréliométrique, et je l'ai bien dit cette fois-ci, du premier coup, bravo.
Et donc, ce qui est intriguant en fait avec ce télescope, c'est qu'il a des bornes électriques. Donc, il date de 1906, et là où on observe sur l'oculaire, qui est sur le côté du corps du télescope, là, il y a des bornes électriques qui sortent. Et donc, pourquoi des bornes électriques? Eh bien, parce que au foyer du télescope, il y a un petit couple thermoélectrique. Donc, un thermocouple, c'est un petit circuit électrique qui est composé de deux métaux différents, reliés par des soudures. Et quand on chauffe une soudure, eh bien, il y a une différence de potentiel, une tension électrique qui apparaît au niveau de l'autre soudure. Donc, on convertit un rayonnement, une énergie de rayonnement, en une tension électrique. Et donc, ce télescope, il permet pas de faire une mesure optique, enfin voilà, on regarde, on voit une image, mais superposé à ça, on a une tension électrique qui sort de ce télescope qui date du début du XXe siècle.
Et alors, du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous avez quand même trouvé une sorte d'artefact qui marque vraiment, pour le coup, un tournant dans la technique d'observation de l'espace. Vraiment, on passe d'un seul coup de l'astronomie physique.
De l'astronomie de position
à l'astronomie physique.
À l'astronomie physique. Voilà. Avant, enfin, jusqu'à cette période de l'histoire, on s'intéressait au mouvement des astres, à prédire les positions, les orbites, tout ça. On faisait de la mécanique. Et puis, à la fin du 19e siècle, on commence à faire de la physique avec les objets astronomiques. C'est de l'astronomie physique qui deviendra l'astrophysique d'aujourd'hui. Et là, ça consiste à recevoir le rayonnement des astres et appliquer des mesures de nature physique dessus. Et donc, c'est l'essor de la spectroscopie. On prend la lumière et on la décompose dans ses fréquences et on peut étudier séparément et appliquer des lois physiques dessus et remonter aux propriétés physiques des objets qui envoient ce rayonnement.
Alors vous avez parlé d'un observatoire du Mont Blanc, racontez-nous ça, parce que cette mesure-là, c'est encore une fois la première mesure de la température du Soleil qui a été quasiment exacte.
Voilà. Alors quand on n'a pas de sonde spatiale ou de fusée, quand on est au début du XXe siècle, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend un ballon, alors là bonjour pour pointer l'objet dans le ciel avec tous les remous, je sais pas quoi, soit on monte au sommet des montagnes. Et alors donc, voilà, il y a Jules Janssen qui était le fondateur de l'observatoire de Meudon, qui, quand il avait 65 ou 70 ans, il a fait 3 ascensions du Mont Blanc en chaise à porteur, puisqu'il était un vieil astronome respectable, tout ça, et il s'est fait porter là-haut, et il a dit, ça c'est quand même vraiment pas mal, l'atmosphère est super pure, il faut qu'on construise quelque chose au sommet du Mont Blanc. Et donc il a fait un chantier gigantesque avec les guides alpins de Chamonix et tout ça qui se sont mis dedans, et il a réussi à construire une cabane qui a été construite à Meudon, juste là, transportée là, enfouie dans la glace, et qui était une sorte de paquebot des glaces qui tanguait comme ça.
On va vous mettre les photos sont très impressionnantes de cet observatoire. C'est vraiment une cabane de bois qui a été plantée.
Voilà, posée dans la glace. Il y avait Gustave Eiffel qui avait un projet de construire un truc métallique bien accroché à la roche, mais... ils ont fait des sondages, impossible de trouver un bout de rocher sous ça. Donc ils ont mis cette sorte de bateau et ça a marché très bien. Il y avait une grande lunette qui était là-haut, il y avait des instruments de météorologie et tout ça, ils ont fait des expériences de biologie également, mais en fait au bout d'un moment ça bougeait avec la glace, et même s'ils avaient prévu des vérins pour redresser la structure, au bout d'un moment il y a une crevasse qui s'est ouverte, qui a avalé le truc, et voilà, de 1893 à 1909 l'observatoire Janssen avait vécu.
Quand je vous dis ça fait un peu Indiana Jones, Indiana Jones des montagnes françaises. Racontez-nous quand même comment ça marche, comment est-ce qu'il a pu aboutir à ce calcul aussi précis grâce à cet instrument de la température du Soleil.
Alors en fait, ce télescope, c'est l'œuvre de deux personnes, Charles Ferry, qui était un professeur d'optique à l'ESPCI, et Gaston Milochaud, qui était un astronome à l'Observatoire de Paris et de Meudon. Et donc les deux ensemble, Charles Ferry venait d'une tradition de construction d'appareils, c'était un inventeur génial qui inventait des tonnes de réfractomètres, de pyromètres, de tonnes de trucs truc pour mesurer des rayonnements. Et il a eu l'idée de développer le premier appareil commercial pour mesurer la température des fours à distance selon la loi de Stefan Boltzmann. Alors, quand on a un four qui est chauffé, ça se comporte comme ce qu'on appelle en physique un corps noir. Un corps noir, c'est un modèle qui est... Enfin, c'est un corps parfait qui absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit et sans en transmettre ni en réfléchir. Et donc, quand il est à l'équilibre thermodynamique, il doit rayonner toute cette énergie parce que sinon, sa température augmenterait, il ne serait pas à l'équilibre. Le soleil se comporte comme un corps noir. C'est un peu le phénomène d'incandescence. Quand vous avez un métal qui est chauffé, vous le voyez passer par toutes ses couleurs. Bon, ben ça, c'est comme un spectre du corps noir. Et les fours de métallurgie...
Les hauts fourneaux,
voilà, c'était un bon exemple de ça. Et donc, après sa thèse, il a décidé de convertir le prototype de lunettes dont il s'était servi pendant sa thèse pour une problématique de recherche fondamentale pour les industriels. Donc, ils avaient une manière de mesurer la température de leur haut fourneau. Parce que jusqu'à présent, on mettait un thermomètre qui brûlait et ça marchait pas.
Quand on arrive à ces températures-là, forcément, ça fond.
Exactement.
C'est le principe du four.
Et donc, les industriels lui disent, ah, c'est vachement bien ta lunette, mais les objectifs en verre, il y a quand même pas mal d'absorption dedans. Est-ce que tu pourrais pas mettre un miroir? Parce que là, il n'y a pas d'absorption de certaines longueurs d'onde par la réflexion. Et donc, il avait ce miroir, enfin, ce télescope pyrométrique. Et là, il a rencontré Milocho qui lui a dit, tiens, on pourrait l'appliquer à encore de la... On retourne vers la recherche fondamentale. Et moi, je voudrais savoir quelle est la température du soleil. Donc, si on construit un prototype spécial et qu'on lui applique cette loi de Stefan Boltzmann qui donne qui relie, en fait, l'énergie à la température d'un corps noir, et bien, en mesurant l'énergie rayonnée par la différence de température aux bornes du télescope, on peut remonter à la température du soleil.
Qui est deux?
Les deux,
6132.
Il est donné en Kelvin, là, 5663 Kelvin mesuré à l'époque, et la température qu'on a aujourd'hui, c'est 5778.
Ah d'accord, je croyais que c'était 6132, mais c'est moi qui me suis trompé. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, cette découverte de notre Indiana Jones Junior?
Mais est-ce que ça va resservir?
Ah mais oui, on y compte bien. Il est poussiéreux, mais il a l'air de marcher encore. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que comme il n'avait pas d'autre but que de servir au soleil, je pense qu'il a resté tranquillement dans son placard pendant un gros siècle. Et on est en train de le faire réparer. On a eu un financement juste hier pour refaire un pied, pour réparer le couple thermoélectrique. Et l'idée, c'est qu'il soit un peu le porte-étendard du musée de vulgarisation scientifique de l'ESPCI, du patrimoine historique, on va dire, de l'ESPCI, parce qu'on a plein de collections comme ça à valoriser, au même titre que la manip des Curie, avec laquelle ils ont découvert la radioactivité.
L'ESPCI qu'on appelle l'école des Nobel, parce qu'on ne sait plus combien en sont sortis de chez vous.
Et donc, on va essayer de le refaire fonctionner. Ce serait incroyable de pouvoir refaire les expériences. Bon, on va pas l'emmener au Mont Blanc parce que.
Les travaux de l'ESPCI, ça va durer combien de temps?
Oula,
ça va durer longtemps.
Ça va durer assez longtemps. En fait, on va casser tous les bâtiments qui sont à l'intérieur du pâté de maison et modifier ceux qui sont à l'extérieur pour créer un nouveau bâtiment en forme de spirale, rajouter des étages. C'est assez dantesque. C'est un des plus gros chantiers dans lesquels la mairie de Paris s'est engagée dans les dernières années. On avait des locaux où on était un peu à l'étroit et là, on va avoir enfin des vrais locaux modernes.
Il paraît que vous travaillez d'arrache-pied un article sur ce pyréliomètre.
Exactement. Voilà, j'ai pendant les vacances, j'ai écrit un petit article sur le pyréliomètre et on va essayer de le publier maintenant.
Eh bien, vous nous l'enverrez. Il est déjà 16h47, comme le temps passe vite en votre compagnie. Dernier sujet du jour, Cécile, vous nous emmenez dans un monde meilleur. Un monde où le nombre de voitures par habitant a chuté drastiquement. Un monde sans parking, sans feu rouge, un monde sans embouteillage. Où la circulation n'est plus qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Exactement. Il faut bien terminer sur une note plus optimiste dans cette émission. Et vous savez que le sujet de la voiture en ville est un sujet sous tension. En ce moment, à Paris, on parle beaucoup des travaux de la rue de Rivoli, mais on sait très bien que la tension est très forte entre le fait que la voiture est effectivement synonyme de pollution, d'embouteillage, de bruit. Mais c'est aussi un moyen de transport indispensable à de nombreuses personnes. Il faut bien conjuguer ces problèmes-là. Et donc, nous avons publié là un article de deux chercheurs du MIT, Carlo Ratti et Asaf Biderman, qui travaillent sur ces sujets et qui se livrent là un petit exercice de prospective à partir de la convergence qu'on peut déjà observer aujourd'hui, effectivement, entre le développement de la voiture autonome, c'est bien que la voiture va être de plus en plus autonome, avec effectivement aussi le développement des systèmes intelligents qui vont permettre une gestion du trafic formidable, et aussi le développement de l'économie du partage. Donc si on se projette dans l'avenir, on pourrait espérer que, effectivement, la voiture ne disparaisse pas, mais soit beaucoup moins encombrante.
Et qu'elle soit plus partagée, parce que ça part d'un constat, hein, qui est que d'ici à 2050, normalement, la demande en transport urbain va doubler. Donc ça signifie qu'il faudrait doubler le nombre de voies, l'espace de circulation.
Et ça, c'est pas possible.
Et surtout, même pas pour l'améliorer, c'est-à-dire pour rester au niveau d'aujourd'hui.
Voilà. Des embouteillages qui est déjà à son maximum, on va dire. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Oui, absolument. Et que, effectivement, notre mode d'utilisation de la voiture aujourd'hui peut sembler aberrante quand même. Aux États-Unis, mais c'est à peu près pareil chez nous, les voitures restent garées 96% du temps. Donc c'est quand même beaucoup. Et elles prennent une place folle sur, effectivement, la chaussée et l'espace urbain.
Les parkings.
D'où l'idée, effectivement, que si l'autopartage se développe, si le covoiturage se développe, on pourrait avoir beaucoup moins de voitures. Et ils ont fait des simulations et, effectivement, on aboutit à des chiffres qui font absolument rêver. Hein. Là, juste si on développe avec des voitures autonomes plus d'autopartage, une ville comme Singapour, par exemple, pourrait offrir le même service, la flotte de voitures de Singapour offrirait le même service avec seulement 30% de sa flotte actuelle.
30% des véhicules.
Et ce n'est pas Singapour qui a le plus d'embouteillages, on le sait, parce que ça coûte très cher d'avoir une voiture à Singapour. Mais ils ont fait des simulations un peu similaires sur New York et sur San Francisco, et on aboutit à ces chiffres qui, effectivement, font absolument rêver. On a envie de ça. Par ailleurs, effectivement, ils travaillent aussi sur des nouveaux systèmes qui permettraient de fluidifier encore plus la circulation, et notamment, effectivement, les carrefours sans feu rouge. Formidable, ça, sans feu rouge.
Parce que on parle beaucoup de ruissellement en ce moment pour d'autres sujets. Ruissellement, le carrefour sans feu rouge, ça veut surtout dire la fin des embouteillages. C'est-à-dire qu'avec l'autonomie des voitures qui communiquent les unes avec les autres, d'un seul coup, il n'y a plus d'effet d'accélération, de ralentissement, d'interruption de la circulation. Et normalement, tout ça devient extrêmement fluide puisque calculé avec des véhicules qui communiquent.
Normalement. Voilà. Effectivement, dans un monde où nous serons tous connectés, toutes les voitures seront autonomes et nous serons tous connectés, on pourra effectivement construire des carrefours où il n'y aura plus feu rouge, feu vert comme aujourd'hui, mais tout un système de gestion du trafic qui fait que telle voiture aura le droit de passer. On attribuera des créneaux de transition aux voitures et d'après les calculs, on peut faire passer deux fois plus de véhicules sur un même carrefour que ce qui se passe aujourd'hui avec si les conducteurs sont raisonnables et obéissent au reste de la circulation. Mais comme les voitures conduiront toutes seules, on peut espérer qu'il n'y aura moins de chauffards et que ça pourrait marcher.
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que, en fait, ce que ça amorce, et on en avait parlé d'ailleurs ici au cours d'une émission sur le futur de la voiture, c'est que ça amorce un changement paradigmatique du rapport au véhicule. C'est-à-dire que la voiture n'est plus un véhicule personnel, individuel, dont on a l'utilisation parfois avec des couples qui ont 2-3 voitures de manière individuelle, mais une sorte de mi-chemin entre le véhicule individuel et le transport partagé.
Absolument, c'est un changement de posture, mais que l'on voit déjà s'amorcer, hein, nettement, avec l'autolib, par exemple, chez nous. Mais c'est aussi, ça va demander quand même une réorganisation du marché, parce que pour que tout ça marche, il faudrait par exemple que toutes ces plateformes de gestion de trafic ou qui proposent l'autopartage, le covoiturage, etc., communiquent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on voit bien que techniquement, ça serait possible pour trouver effectivement le véhicule qui vous emmène au bon endroit le plus rapidement possible sans que vous ayez votre propre voiture.
Alors, c'est vrai que cet article décrit une sorte de futur un peu utopique qui pose évidemment quelques questions. Déjà la question de la transition, parce que il y a entre le moment où toutes les voitures deviennent autonomes et communiquent entre elles et le moment où toutes les voitures sont individuelles et ne communiquent pas entre elles, eh bien il y a une zone grise. Progressive qui pose néanmoins de vrais problèmes d'adaptation de la circulation et de la conversion à ces nouvelles formes de déplacement.
Absolument, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même anticiper ce qui va arriver pour l'accompagner, parce que peut-être aussi que si on laisse se développer la voiture autonome de son côté, la gestion du trafic de l'autre, etc., on peut aboutir à des effets un peu pervers. Par exemple, on peut aussi se demander si le développement de la voiture autonome, qui a beaucoup d'avantages, pourrait avoir des effets secondaires involontaires, qui est par exemple d'augmenter l'étalement urbain. Parce que si vous avez une voiture qui conduit toute seule, dans laquelle vous pouvez travailler, dormir, voilà, pourquoi ne pas aller habiter encore plus loin? Surtout s'il n'y a plus d'embouteillage.
Et ça, c'est vraiment un élément passionnant de cette étude qui montre et qui réexplique comment la voiture individuelle, déjà au début du XXe siècle, a complètement modifié l'urbanisme et la répartition des populations, et comment la conversion à ces nouvelles formes de transport, elle-même reconfigurerait encore de manière totalement, peut-être en étendant beaucoup plus encore les villes qu'elles ne le sont aujourd'hui.
C'est bien pour ça qu'il faut l'anticiper et l'accompagner et pas laisser ce chose se faire toute seule. Même si, effectivement, en très peu de temps, finalement, depuis le 19e siècle, on a vu notre espace urbain complètement modifié par les transports. D'abord par le train, qui a permis l'urbanisation, puis par la voiture, qui a repermis, au contraire, l'étalement des villes. Et puis, avec la voiture autonome, il pourrait se passer le même type de phénomène. Et il faudrait, effectivement, faire attention à ça. Il va falloir aussi réfléchir à la perte financière que ça va provoquer. Effectivement, moins de voitures, donc moins de voitures vendues, mais aussi moins d'amendes, moins de taxes qui rapportent à l'État, qui permettent d'entretenir les routes. Donc, comment on va organiser tout ça?
Puis la disparition des métiers, moins de chauffeurs, moins de transport routier. Donc, enfin, tout ça, c'est une vraie bascule dans un autre modèle de déplacement.
Voilà, auquel, voilà, ils disent qu'il faut réfléchir et accompagner, mais je voudrais quand même pas qu'on termine sur une note aussi pessimiste. Oui, effectivement, ça va faire du changement, mais si on l'accompagne bien, on va arriver à une société où les voitures seront une nuisance bien moindre qu'aujourd'hui.
On peut avoir confiance dans certains grands constructeurs automobiles pour ne pas se laisser faire totalement. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on nous vend la voiture comme un modèle de succès, de réussite personnelle, avant de réussir à passer à la voiture semi-collective. Je pense qu'on a un petit peu de marge.
Absolument. J'entendais d'ailleurs, c'est une radio de la maison ce matin, que les ventes de voitures avaient augmenté de 9% le mois dernier, de 11% le mois précédent. Donc je sais qu'on n'en est pas là, mais peut-être qu'on va trouver quand même d'autres façon de se rémunérer.
Olivier, ce passage, ce bouleversement des modes de transport et notamment des modes de transport individuels,
Il y a la façon un peu théorique, effectivement, de voir les choses avec cette révolution électronique, informatique qui vient. Effectivement, est-ce que Ford reconnaîtrait ses petits en voyant aujourd'hui les voitures qui roulent dans les roues, sur les routes qui sont bardées d'électronique? Ça n'a plus rien à voir avec la mécanique d'antan. Hein. Mais effectivement, les gens ont un tel rapport personnel, voire intime, dans certains cas, avec leur automobile. C'est la mort de Titine, quoi, hein, la voiture partagée. Hein. Et est-ce que les gens sont prêts à passer ce pas-là? C'est pas sûr. Hein. Donc, il y a une approche très, une vision très théorique, quand même, de cette révolution. Et on demande à voir quoi, hein, comment ça va se passer réellement.
Un dernier mot, il nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais qu'on termine, vous savez, par ce petit, vous n'avez pas oublié comment ça se termine cette émission, par ce petit tour de table des actualités scientifiques à venir ou dont on n'aurait pas parlé, qui vous semble important de suivre, Olivier.
Alors il y a un rendez-vous là qui va être à peu près incontournable le 15 septembre avec la destruction programmée de la sonde Cassini qui va fondre vers l'atmosphère de Saturne pour y mourir. Et il faudra assister à ça en direct.
Eh bien, alors ce ne sera pas en direct parce que la perte de signal est prévue à 14h02. Mais en tout cas, nous avons prévu une émission spéciale ici même sur cette mission Cassini. Avec peut-être l'espoir des premières communications ou des premières images, Guillaume.
Ouais, alors moi je voudrais faire partager aux auditeurs mes séries de vacances. Il y a le National Geographic qui a fait une série sur Einstein récemment qui s'appelle Genius. C'est Geoffrey Rush, l'acteur que vous connaissez peut-être de Pirates des Caraïbes ou de comment le
La migliore offerta des frères de Tornato.
Qui a joué Peter Sellers dans un biopic pas mal.
Et donc c'est un acteur formidable, il incarne Einstein et d'une manière vraiment que j'ai trouvé assez bouleversante et ça suit toute sa vie des années du début jusqu'à son engagement contre la bombe atomique, c'est super.
Cécile ?
Mon objectif de la semaine est d'aller faire un tour au Collège de France sur le colloque art, le rêve des formes, ça s'appelle, voilà, et c'est des rencontres entre de grands chercheurs et de grands artistes, et au passage de filer au Palais de Tokyo, où il y a une exposition qui correspond à ce colloque, mais qui s'arrête le 10 septembre. Voilà, ça rafraîchit toujours les neurones, là, à la science.
Merci beaucoup à la une de Sciences et Avenir du mois de septembre.
Détecter Alzheimer et ralentir la maladie.
À la une de Pour la Science.
Les univers multiples, miroirs du monde quantique.
Et sur le projet du tessium, la dernière vidéo.
On va parler de microfluidique. Vous aviez fait un sujet sur les gouttes nageuses dans la recherche montre en main il y a de ça quelques semaines.
Totalement.
Ici. Et ben voilà, vous les verrez en musique, ces gouttes nageuses, bientôt.
Formidable. On met tout ça et tous les liens vers vos magazines et vos sites respectifs sur la page Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à la technique aujourd'hui David Federman, au droit d'auteur Jean-François Souvilly. La suite de vos aventures sur France Culture. Comme chaque vendredi, vous retrouvez le Club du Grain à Moudre avec Hervé Gardette après le journal de 18h. Dans quelques minutes, le magazine de la rédaction consacré aujourd'hui à la crise du logement. Et pour ce qui nous concerne, eh bien comme chaque vendredi, on jette un œil à ce que nous vous avons concocté dans le labo de la méthode scientifique pour la semaine prochaine. Lundi, pour la rentrée scolaire, nous parlerons d'apprentissage vu par les neurosciences. Mardi, les 40 ans de la sonde Voyager. Mercredi, de l'irruption des mégadonnées, de ce qu'elle a changé à la démarche scientifique. Jeudi, du déraisonnable succès des pseudosciences. Et vendredi, fiction, nous demanderons pourquoi nous n'avons toujours pas rencontré d'extraterrestres en 2017, jusqu'à preuve du contraire.